L'Éden de Satan 25. La justice et l'injustice numéro 6. Un groupe en plus. Le savoir. 9 janvier 2022. Service de communion. Pasteur Brian Kozurek. Grâce Fellowship Tabernacle. Comme nous étudions la prédication de frère Branham, l'Éden de Satan, nous pouvons voir le besoin de la parole confirmée de Dieu. En 7 heures. Nous voyons aussi en 7 heures très tardives, le besoin pour Dieu, d'intercéder en notre faveur et de nous proclamer sa parole et continuer à nous interpréter sa parole en l'accomplissant. Nous voyons la nécessité de recevoir la parole confirmée, dans le but d'amener nos pensées dans une condition, qu'elles seront prêtes pour le changement de notre corps. Cette prédication a été préparée pour le service de communion de la dernière semaine, que nous avons repoussé pour cette semaine. Cela n'a été de aucune manière mis en relation avec une quelconque connaissance de certains événements qui m'ont été reportés cette semaine. Dieu m'a donné ces pensées il y a longtemps. Maintenant, pour comprendre réellement cet état d'esprit confirmé, que nous devons recevoir de Dieu, nous devons reconnaître premièrement comment cela vient et par quel canal cela vient. Et pour y parvenir, nous devons regarder à l'opposé, qui est une pensée réprouvée quant à la foi, parce qu'il y a toujours des jumeaux, et pour mieux comprendre une facette du tableau, vous devez être capable de voir ce qu'est l'autre facette. De cette manière, nous pouvons être certains de la véritable méthode de Dieu, en contradiction aux fausses méthodes de Satan. Car Satan n'a pas ses propres paroles. Il n'est mis prend que la parole de Dieu et le pervertit. Et ainsi, comme nous comprenons ces pensées ici, qu'il y a deux types de gens, ceux qui croient, que nous appelons des croyants, et ceux qui n'est mis croient pas, que nous appelons des incroyants. Maintenant, frère Branham nous a dit qu'il y a 3 sortes de croyants, les soi-disant croyants, et les incrédules, mais il l'a réellement décortiqué, il a dit qu'il n'y en a que 2 types, parce que les soi-disant croyants, Néhémie sont pas des croyants, après tout, mais sont juste des imposteurs, dont les motifs de traîner autour des croyants, n'est-ce pas dû à leur amour pour la vérité, mais ils traînent autour jusqu'à ce qu'ils découvrent une certaine erreur dans cela, ou dans ceux qui possèdent la vérité, les vases d'honneur de Dieu. Et une fois que les soi-disant croyants découvrent une erreur, alors ils commencent à trouver un moyen pour justifier leur distanciation des vrais croyants et ainsi, ils utilisent les soi-disant erreurs qu'ils ont découvert comme leur bouc émissaire. Ainsi, quand ils découvrent finalement une erreur, qu'ils peuvent montrer du doigt, ils disent « Habacuc, je le savais », et alors ils s'en vont dans leur propre direction. 1 Jean 2, 19. L'apôtre Jean nous dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, il serait demeuré avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous Néhémie sont pas des nôtres. 20 Pour vous. Vous avez reçu l'onction, une onction, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Cette onction a été donnée dans le but de nous aider à comprendre. Jésus nous a dit dans Jean 16, 13. Le véritable but que le Saint-Esprit nous a été envoyé, c'est pour connaître. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il n'y parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, que l'évidence que nous avons le Saint-Esprit, est-ce que nous sommes capables de comprendre les choses de Dieu? Nul Néhémie peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l'Esprit de Dieu, Néhémie soit en lui. L'apôtre Jean nous dit, la raison pour laquelle ils s'en sont allés, est-elle l'évidence qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ainsi, vous pouvez voir que frère Branham était correct quand il a appelé ces gens des imposteurs. Parce qu'après tout, le fait qu'ils traînent autour des gens auxquels ils ne s'identifient pas en réalité, montre qu'ils cherchent quelque chose d'autre et pas ce que les gens possèdent quant à leur foi. Ainsi, nous voyons que ces gens sont des imposteurs à travers leurs mauvais motifs. Ils sont des hypocrites, des acteurs. Ainsi, nous pouvons voir à travers ceci qu'il n'y a que deux sortes de croyants après tout, parce que quand nous nous y concentrons, nous voyons que le soi-disant croyant est un incroyant déguisé. Nous découvrons la même chose dans Matthieu 7, où Jésus nous avertit contre les loups en peau des brebis. Maintenant, pourquoi un loup se vêtirait de peau de brebis? Nous savons qu'un loup se vêtit de peau de brebis pour faire une chose et s'estère de se rapprocher davantage des brebis pour les tondre et faire de la marchandise pour les dévorer. Et ainsi, nous voyons que tout se rapporte au motif. Et ainsi, nous voyons qu'il y a deux types d'incroyants. Ceux qui négligent et ceux qui veulent faire de vous des marchandises. Franchement, j'aimerais m'adresser à celui qui est négligent au sujet de ce que je crois, que de parler à l'autre qui a des motifs ultérieurs. Aucun d'entre eux n'est mis croit, mais au moins l'un est honnête quant à son incrédulité, pendant que l'autre se cache derrière votre croyance, il veut s'approcher de vous pour vous tondre. C'est la personne à observer. Maintenant, nous savons qu'il y a deux types d'incrédules et nous voyons aussi qu'il y a deux sortes de croyants. Les vierges sages et les vierges folles, qui toutes deux étaient des croyants. Toutes deux croient, comme cela est dit dans Matthieu 25. Les dix vierges 11 décembre 1960 M156. Maintenant remarquez que tout était des vierges. Eh bien, laissez-moi considérer ceci. Prenons ces deux choses-ci. Celle-ci est une vierge et celle-ci est une autre vierge. Celle-ci était une vierge folle. Celle-ci était une vierge sage, mais les deux étaient des vierges. 157. Maintenant si vous prenez ce terme vierge et que vous le vérifiez, il signifie, saint, pur, sanctifié. Le terme sanctifié vient du terme sacré, qui veut dire purifié. Sester comme le mot hébreu. Bon, sester le mot grec sanctifié, qui signifie purifié. Dans Matthieu 25:1-13. Nous lisons là où Jésus nous a dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 2, 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. 3 les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. 4 mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. 5 comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6 au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. 7 alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. 8 les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. 9 les sages répondirent, non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. 10 Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. 11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Dans Conduite, Ordre et doctrine 174. Frère Branham dit, la Vierge folle Esther une croyante. Elle voulait ce que la Vierge sage possédait et elle voulait rencontrer l'époux. Mais elle n'était pas prête. Elle n'avait pas d'huile pour éclairer sa lampe. Le départ soudain et secret de l'Église 1.0958. Combien d'entre vous, peut-être vous tous, avez lu au sujet des vierges? Les unes étaient sages et les autres étaient folles. Vierge signifie pureté. Elles étaient toutes de bonnes gens. Chacune d'elles était vierge. C'était des vases sanctifiés de Dieu. Mais celles qui avaient de l'huile dans leur lampe entrèrent, et les autres furent laissées dehors. Elles étaient toutes des vierges, chacune d'elles. Des gens qu'on aimait ne pouvaient pas pointer du doigt pour quelque chose de faux. Elles croyaient toutes dans la venue du Seigneur. Elles étaient prêtes à le rencontrer, mais certaines d'entre elles laissèrent leur huile s'épuiser. 114 Que cela ne soit pas votre cas. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est Esther l'Esprit, le Saint-Esprit. Néhémie laissez jamais cela s'épuiser en vous. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité vis-à-vis de Christ et de la cause, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile et achetez-vous un remplissage du Saint-Esprit. Maintenant, comment irons-nous vers lui? Pour remplir de nouveau nos lampes? Psaume 119, 105. Ta parole Esther une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. En fait, nous découvrons que frère Branham nous dit la même chose, en parallèle avec son explication de cette lampe que les vierges sages avaient. Le conflit entre Dieu et Satan 3.1.05.96.2.31. Le feu Esther est la confirmation de la lumière qui vient de la parole. Ils vont remplir. La Vierge intelligente, la Vierge sage avait de l'huile dans sa lampe, et elle a mouché sa lampe et l'a allumée. Bon. Qu'Esther's? Maintenant, le Dieu Esther la parole. L'huile s'Esther l'esprit, et le feu, s'Esther la lumière de l'Évangile sur cette huile. Amen. Dieu l'a dit. Voyez? Esther, c'est le vase. Très bien. L'huile se trouve dans le vase et le feu la brûle. Cela montre que ça reflète la lumière de ce que la parole a dit. Vous voyez? Esther, c'est le reflet. Eh bien, cette vierge sage pouvait faire cela. 222 Mais cette autre, la vierge folle, était dehors et n'avait pas d'huile. Et elle n'est mis pouvait refléter rien d'autre que leur église et leur dénomination. Vous voyez? 223 Maintenant, vous dites que la parole. Vous dites que la parole était l'esprit? Oui, monsieur. Dieu a dit, ma parole est Esther esprit. C'est Esther vrai. La vraie épouse doit être unie par la parole. Bon. Rappelez-vous que si elle est Esther une partie de Christ, elle doit être la parole de Christ. Pour être la parole de Christ, vous devez être baptisé en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous croyez Christ, et Christ est Esther la parole. Ainsi, alors que veut dire refléter la parole? Les sages pouvaient refléter la parole et les folles n'aimées le pouvaient pas. La réflexion, c'est Esther quand la parole Esther amplifiée dans votre chair, en la voyant s'accomplir. Ainsi, vous êtes une partie de cette parole, qui s'accomplit. Vous la reflétez. Vous, votre vie, son esprit vivant en vous. Esther le feu qui éclaire la parole. La seule voie pourvue par Dieu, pour adorer 28 novembre 1965 M. Considérez Enoch, un réflecteur parfait de Dieu en type. Lorsque Dieu en a fini avec lui, il le transporta simplement, vous voyez, l'enleva. la mécanique qu'il avait reflétée devint dynamique par l'esprit, et l'enleva. 270 Il en fut de même du temps d'Élie. Élie, même ses os et là où se reflet, le réflecteur de Dieu dans son corps, en rendant la parole de Dieu manifeste. On posa un mort sur ses osées, et il revint à la vie. Nous sommes ses osées et sa chair aussi longtemps que nous sommes l'épouse de Christ. Croyez-vous cela? Bien. Il est mort pour nous, et nous sommes morts à nous-mêmes, et nous sommes ensevelis en son nom, afin que nous n'y soyons plus du monde, mais en lui, en sorte que toute la famille qui est au ciel, porte le nom de Jésus-Christ. Ephésiens 1.21. Car aussi bien au ciel, la famille qui est au ciel, quel est le nom de la famille qui est au ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur la terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu, là où se trouve le sang. Est-ce vrai? C'est la porte, l'entrée, le lieu où il a placé son nom, et la parole a été faite chair, et habité parmi nous. C'est la parole qui reflète, et qui montre l'âge dans lequel vous vivez. Voilà ce qu'il était, voilà ce qu'était Moïse, voilà ce qu'était Jacob, voilà ce qu'étaient les autres, dévoiler la parole de Dieu, le réflecteur par lequel Dieu se reflétait lui-même. Et nous en arrivons à l'image parfaite de Dieu, Jésus-Christ, le chef-d'œuvre de Dieu. Il fut frappé afin qu'il puisse faire des autres une épouse qui le reflète. Le temps de la moisson 12 décembre 1964 p. 136. Eh bien, Malachi 4 Néhémie nous enseigne-t-il pas qu'avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel arrive, cela aura lieu? Combien savent cela? Et il ramènera les cœurs des enfants au cœur des pères. Est-ce vrai? La foi des pères de la Pentecôte du début. 354 Et en ce jour-là, Luc 17.20. Je pense que c'est cela. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera révélé, non pas un homme, le Fils de l'homme, non pas une organisation. Le Fils de l'homme, la parole vivant elle-même une fois de plus parmi les gens. Voyez-vous, la parole elle-même faite chair en vous. Vous êtes un reflet de cette heure-ci, le message, le reflet de cela. Voyez-vous, vous vivez de nouveau, vous vivez la vie qui était en Jésus-Christ. Vous êtes dans la présence du Fils. Alors pour le 356 qu'arrive-t-il à cela? Qu'arrive-t-il à cette église-là? Finalement, écoutez, cette balle se retire de ce blé lorsque cela commence à être manifesté. Qu'est-il arrivé? La vie qui était dans la balle est rentrée dans le blé. La vie ne changera pas. Les porteurs changent, ils deviennent des dénominations, voyez-vous? L'aigrette, le gland, la balle. Mais le blé Néhémie peut pas changer. Cela doit être un ministère qui est exactement conforme à la parole, comme lui était conforme à la parole à tout, comme la première église était conforme à la parole, remplie de l'esprit, nourrie de la parole, non pas nourrie de dénomination, nourrie de la parole. Dans sa prédication, Shalom 12 janvier 1964 p. 114. Frère Branham nous dit, comment nous devenons des réflecteurs de Jésus-Christ, la parole de Dieu. En priant Dieu, il dit, et que le Saint-Esprit de Dieu leur apporte le rythme de la parole et sa vérité, afin qu'ils soient façonnés maintenant des fils et des filles de Dieu, et qu'ils soient la réflexion de la lumière de Dieu sur la terre. Ils doivent être la parole manifestée, qui fait que les hommes et les femmes doivent vivre comme Jésus a vécu et croire chaque parole de Dieu et vivre par elle, comme lui l'a fait car il a dit, l'homme Néhémie vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non pas simplement de quelques-unes des paroles, une partie de la parole. Mais deux, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, comme Paul disait quand il parlait de cette réflexion de Christ dans Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il a aussi parlé de cette réflexion dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et j'ai aussi lu, ce que Jésus a dit que nous devenons des réflecteurs de la même gloire, qu'il a reçue du Père, afin que nous soyons un, avec la même réflexion. Jean 17, 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mais Dieu a une raison de faire de vous un réflecteur. Et c'est pour que vous attrapiez ceux qui n'aiment peuvent pas se saisir de la parole pour eux-mêmes. Mais ils peuvent saisir ce qu'ils voient en vous, qui reflète la lumière de la parole manifestée dans votre vie. Et c'est de cela que je voudrais parler ce matin, parce que nous pouvons voir qu'il y a deux types des incroyants et il y a deux sortes des croyants. Et cela donne quatre. Et nous savons que quatre. Esther le nombre de la délivrance. Mais Esther aussi le nombre de la terre ou du terrestre. Mais le nombre de Dieu, de la grâce Esther 5 et ainsi, il doit y avoir un autre groupe des gens, qui n'aimés sont ni des croyants, ni des incroyants, mais sont séparés de tous les deux groupes, que nous devrons appeler un groupe en plus. Parce que Esther strictement par la grâce, qu'il leur restait accordé la vie éternelle de l'autre côté. Et c'est sur ce groupe que je veux que nous focalisions nos pensées ce soir, parce que nous avons tous des bien-aimés, qui n'aimés peuvent simplement pas voir, ce message de grâce que Dieu nous a donné. Ils sont véritablement aveuglés et à cause de cela, il semble qu'il n'y a, absolument pas d'espérance pour eux. Pourtant, Dieu qui est riche en miséricorde a pourvu à une voie pour eux et c'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Vos parents, vos frères, vos sœurs, peut-être vos enfants ou vos amis proches qui sont simplement aveugles et n'y peuvent rien. Ils étaient destinés à leur aveuglement parce qu'ils sont une partie de ceux qui font partie de l'âge de l'Odyssée. Lequel Esther aveugle, nu et misérable et n'aimé le sait pas. Exposé de cet âge de l'Église chapitre 7274-2. De même que la majorité d'Israël, le peuple de Dieu, a renoncé à ses droits au livre de vie en rejetant Jésus, ainsi la majorité de l'Église des nations sera condamnée, et leurs noms seront effacés du livre de vie pour avoir rejeté la parole et être par là entrée dans le mouvement écuménique mondial. Qui est l'image faite à la bête. 274-3 Voyons encore un autre point ici. Dans le grand jugement du trône blanc, les gens seront séparés. Le livre de vie sera ouvert, et un autre livre sera ouvert. Et nous voyons cela dans Matthieu 25, 31-46, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. 32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. 33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. 36 J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. 37 Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? 38 Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? 39 Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40 Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est-à-dire à moi que vous les avez faites. 41 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42 Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. 43 J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44 Or ils le répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? 45 Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est-à-dire à moi que vous ne les avez pas faites. 46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ainsi, nous voyons la grande importance que Jésus donne, au fait de faire aux autres, comme vous voudriez qu'ils vous fassent. Maintenant, nous allons y aller en profondeur dans quelques minutes. Mais, pour le moment, voyons ce que les Écritures déclarent d'autre, au sujet de ce groupe, qui n'est ni croyant, ni incroyant. Apocalypse 20, 11-15 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui est attaché dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il n'y fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Maintenant, que pensez-vous que ce livre de vie, lequel est le témoignage de votre vie, parle-t-il? Pourquoi pensez-vous que Jésus donne tellement de l'importance sur cela, qu'il en parle en termes de jugement? Et nous voyons encore la réponse dans Matthieu 16, 24-27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnera un homme en échange de son âme? 27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous lisons encore dans Romains 3, 19-20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 20 Car nul n'y sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et nous continuons encore dans le livre des âges de l'Église. Nous lisons. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Cestère la seconde mort, les temps de feu. Quiconque n'est mis fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les justes comme les injustes seront présents au jugement. Cestère dit ici. Ceux et justes n'est mis seront pas l'épouse. Car l'épouse Esther assise avec lui pour juger. Ainsi, si ces justes Néhémie sont pas l'épouse, parce qu'elle Esther assise au jugement, alors qui sont-ils et comment ont-ils été faits justes? 1 Corinthiens 6, 2-3 Néhémie, savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est Esther par vous que le monde Esther jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? 3 Néhémie, savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous Néhémie jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Apocalypse 3, 21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez-vous, l'épouse Esther avec lui sur le trône. Comme elle doit juger le monde, elle doit s'asseoir à côté de lui, lors du jugement. Esther exactement ce que Daniel vit. Daniel 7, 9-10 Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Quel livre? Le livre de vie, de chaque personne, ayant vécu sur la terre. Il sera enregistré dans le livre de vie, tout ce que vous aurez fait. Et la Bible nous dit que votre vie sera jugée en fonction de ces témoignages, dans votre livre de vie. Ainsi, nous voyons ici la même scène, comme l'autre écriture la présente. Car les milliers qui le servent, sont l'épouse. Car qui sert l'époux, si ce n'est Esther l'épouse? Expose des sept âges de l'Église 276-1. La question se pose maintenant de savoir pourquoi ces justes passent en jugement. Il n'y a pas d'autre place où ils puissent apparaître, car il n'y a que deux résurrections, et puisque Néhémie sont pas aptes à participer à la première résurrection, il faut qu'ils apparaissent dans la deuxième résurrection, qui est une résurrection pour le jugement. Ceux qui sont aptes à participer à la première résurrection, l'épouse Néhémie passe pas en jugement. Jean 5, 24 en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, c'est Esther le croyant, qui est Esther déjà un récipient de la vie éternelle, qu'il possède maintenant, et Néhémie vient point en jugement, Néhémie viendra pas en jugement, c'est Esther ce qui est Esther réellement dit, mais il est Esther passé, de manière permanente, de la mort à la vie. Mais notez bien que Jésus devait penser à notre groupe qui, lors d'une certaine résurrection, recevra la vie éternelle. Ils la recevront à la résurrection, Néhémie l'ayant pas reçu auparavant en tant que membre de l'épouse. Jean 5, 28-29 Néhémie, vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. 29 Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal acquis ressusciteront pour le jugement. Or, nous savons tous que dans Jean 5, 28-29 il n'est mis s'agit pas de l'enlèvement, car seuls ceux qui sont morts en Christ sortiront de la tombe à ce moment-là, au temps de l'épouse qui vit encore sur la terre. 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais il est dit dans Jean 5, 28 que tous ceux qui sont dans les sépulcres sortiront. C'est la même résurrection dont il est parlé dans Apocalypse 20, 11-15, où les morts étaient amenés devant le Seigneur et jugés selon leurs œuvres, et tous ceux dont les noms n'étaient pas dans le livre de vie étaient alors jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il n'y fut plus trouvé de place pour eux. 12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. 15 Quiconque n'est mis fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, comment Néhémie pourrait-il pas être trouvé dans le livre de vie? Parce qu'il n'y avait pas de témoignage quant à leurs bonnes œuvres. Exposé de 7 âges de l'Église 277-1. Maintenant, nous nous trouvons devant la question suivante, pourquoi ont-ils reçu la vie éternelle lors du jugement? Alors que les épîtres semblent bien préciser que l'on doit posséder l'Esprit de Christ, ou périr. Quoi qu'il en semble, nous ne devons pas refuser de croire aux paroles de Jésus, qui précise bien que, parmi ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, il y en a qui recevront la vie éternelle avant ou après la résurrection générale. Paul n'élude pas cette vérité, car il dit clairement dans Philippiens 3.11 pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Cette phrase est très curieuse. Chacun de nous sait que nous aurons tout par une résurrection, que cela nous plaise ou non. Tout ressusciterons. Ainsi, Paul Néhémie pouvait garder, parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. En réalité, ce n'est pas cela qu'il dit. Le sens littéral de ce qu'il dit, c'est parvenir, si je puis, à la pré-résurrection d'entre les morts. Il ne s'agit pas ici de parvenir à la résurrection générale, à la seconde, mais de parvenir à la première résurrection, de laquelle il est dit, béni et saint ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. La première résurrection n'a rien à voir avec la seconde mort. C'est à la fin des 1000 ans que tout le reste des morts reviennent à la vie. En ce jour, certains entreront dans la vie éternelle, et d'autres seront emportés dans la seconde mort. Or, nous n'avons pas besoin de faire des suppositions au sujet de ceux qui recevront la vie à la seconde résurrection. Il est dit qu'ils ont reçu la vie parce qu'ils ont été bons envers les frères. Ceux qui ressusciteront pour être jetés dans les temps de feu le seront parce qu'ils auront maltraité les frères. Puisque c'est la parole de Dieu, nous l'acceptons simplement. C'est un fait indiscutable. 278-1 Pour encore plus de clarté, Prenez en particulier les paroles de Matthieu 25.31-46. Il n'est-ce pas dit que le berger sépare littéralement les brebis des boucs? Mais que ce sera comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ces personnes n'émis seront pas des brebis à ce moment précis, au jugement du trône blanc. Les brebis sont dans sa bergerie. Elles ont entendu sa voix, sa parole, et l'ont suivi. Elles ont déjà la vie éternelle, et n'émis peuvent pas passer en jugement. Mais ceux-ci n'ont pas la vie éternelle, et ils passent en jugement. Il leur est permis d'entrer dans la vie éternelle. Mais, en vertu de quoi entrent-ils dans la vie éternelle? Certainement pas par le fait d'avoir déjà sa vie. Comme c'est le cas pour l'épouse. Ils la reçoivent pour leur bonté envers ses frères. Eux n'émis sont pas ses frères. Cela ferait d'eux des cohéritiers de Jésus. Ils n'héritent de rien. Sauf de la vie. Ils n'émis partagent pas le trône. Etc. Avec lui. Leurs noms doivent avoir été dans le livre de vie. Et n'émis pas en avoir été retirés. Or, à cause de leur amour pour le peuple de Dieu, ils sont reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu. Peut-être, comme Nicodème et Gamaliel, ont-ils pris le parti des enfants de Dieu en des moments difficiles. 287-2 Si tout cela revêt un de restauration, faites bien attention. Car les méchants n'émis seront pas restaurés, mais jetés dans les temps de feu. Les noms de beaucoup de ceux qui seront détruits étaient également dans le livre de vie, mais ils ont été effacés, parce qu'ils n'ont pas honoré le peuple de Dieu, qui était la parole vivante manifestée des lettres vivantes pour leur époque. 278-3 Maintenant, soyons bien clairs. Il n'émis s'agit pas ici de nations qui seraient jugées et qui entreraient dans le millénium pour avoir accueilli et aidé les Juifs. Cester est vide, au vu de la conclusion de ces versets. Et ceux-ci, les méchants, iront au châtiment éternel, les temps de feu, mais les justes à la vie éternelle. Il n'y a pas trace de deux jugements où les méchants sont précipités dans les temps de feu. Seule la bête et le faux prophète sont jugés à la fin de la grande tribulation. Non. Ceci est Esther le jugement du trône blanc. Et ils sont jugés selon ce qui Esther écrit dans les livres. 279-1 Esther à la deuxième résurrection que les cinq vierges folles apparaîtront. Remarquez que ce sont des vierges. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'elle n'émit, pouvait pas être de l'épouse. Alors que les cinq vierges sages, dont les lampes étaient pleines d'huile, sont devenues des membres de cette épouse. Mais ces gens-là, puisqu'ils étaient à part, puisqu'ils aimaient Dieu, qu'ils n'émit prenaient pas part au péché du monde, et qu'ils essayaient de vivre dans la parole, selon ce qu'ils en connaissaient, et qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur, ils réapparaîtront au temps de la fin. Ils seront absents du millénium, qui, comme vous commencez à le voir par ces vérités, est une période beaucoup plus importante et merveilleuse que nous n'aurions pu le penser ou le croire. 279-2 Tous ces gens avaient leur nom inscrit dans le livre de vie, et ces noms y sont restés. Mais quels sont les noms qui ont été effacés? Ceux qui ont été effacés, ce sont les noms des membres du système mondial des églises qui ont combattu l'épouse. Ceux-là perdront tout, ils seront jetés dans les temps de feu. 279-3 Avant de poursuivre, faisons le point de ce que nous avons vu jusqu'à présent. En premier lieu, nous savons en toute certitude que le plan de Dieu se trouve dans l'élection. Le choix a été décidé en lui. C'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui, qui serait une épouse parole. Elle a été choisie en lui avant la fondation du monde. Elle était connue et aimée d'avance, avant même d'être apparue sur terre au cours des âges. Elle a été rachetée par son sang, et elle n'est émise pourra jamais passer en jugement. Elle n'est émise peut pas être jugée, car aucun péché n'est émise peut lui être imputé. Romains 4.8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais elle sera bien avec lui sur son trône de jugement, pour juger le monde, et même les anges. Son nom, chacun de ses membres, a été écrit dans une partie du livre de vie avant la fondation du monde. En second lieu, il y a une autre catégorie. Leurs noms sont aussi inscrits dans le livre de vie, et ils apparaîtront dans la deuxième résurrection. Les vierges folles et les justes, dont il a Esther parlé dans Matthieu 25, en font partie. Dans cette catégorie, on trouve aussi ceux qui n'adorent pas la bête, et qui n'aiment se laissent pas entraîner dans le système de l'Antichrist, mais qui meurent à cause de leur foi, bien qu'ils n'aiment soit pas de l'épouse, car ils n'aiment sont pas nés de nouveau. Mais ils apparaîtront à la deuxième résurrection, et ils entreront dans la vie éternelle. En troisième lieu, il y a les chrétiens limitrophes, semblables à ce que nous avons vu au milieu d'Israël alors qu'ils sortaient d'Égypte. Leur nom était inscrit dans le livre de vie, et leurs œuvres étaient inscrites dans les autres livres. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu, qu'ils étaient dénués de l'esprit, même si les miracles et les prodiges étaient parmi eux, leurs noms seront effacés du livre de vie. Parmi ce groupe, il y aura ceux qui, comme Judas, étaient religieux, avaient des manifestations dans leur vie, bien qu'étant entièrement dépourvus du Saint-Esprit. Ils avaient beau être inscrits dans les livres, ils n'étaient pas élus en lui. Ceux qui sont semblables à Balaam seront aussi dans ce groupe. En quatrième et dernier lieu, il y a ceux dont les noms n'ont jamais été inscrits dans les livres, et n'aimés le seront jamais. Nous les trouvons dans Apocalypse 13.8 et dans Apocalypse 17.8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. La bête que tu as vue était, et elle n'Esther plus. Elle doit monter de l'abîme, et elle est à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'Esther plus, et qu'elle reparaîtra. Jésus a dit qu'un certain groupe allait accepter quelqu'un qui viendrait en son propre nom. Ce quelqu'un, c'est Esther l'Antichrist. C'est Esther bien ce qu'il est Esther, dit 2 dans Apocalypse 13.8 et 17.8. Dieu les a prédestinés, mais non pour l'élection. Et dans ce groupe, il y a ceux qui sont comme Pharaon. Il Esther dit de lui, « Je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance. » Des vases de colère formés pour la perdition, Romains 9.17 et 22. Aucun de ceux-là n'est émis, peut être inscrit dans les registres de la vie. Je n'ai mis dit pas qu'il n'y a rien d'inscrit à leur sujet. Sans aucun doute, il y a quelque chose d'inscrit à leur sujet, mais c'est une Esther pas dans les registres de la vie. Le but de leur existence n'a été qu'effleuré dans le reste de ce livre, mais nous pouvons mentionner encore deux versets. Proverbe 16.14. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Job 21.30, version Darby, NDT, le méchant Esther épargné pour le jour de la calamité. Ils sont emmenés au jour de la fureur. Maintenant, avec ceci en esprit, j'espère que vous pouvez voir l'importance d'être salé et d'appliquer le signe pour vos bien-aimés. E28 l'aveugle Bartimée 7 avril 1956. Observez tout simplement. Observez-le ce qui arrive dans ce genre de groupe. Que se passerait-il s'il pouvait sortir de l'enfer ce soir? Que ferait-il? J'imagine qu'il y aurait un appel à l'autel à l'ancienne mode. Certainement. Mais les ennemis peuvent pas le faire. Leur attitude à l'égard du Fils de Dieu à l'époque a scellé leur destinée. Et votre attitude à son égard ce soir fera la même chose pour vous. Sister Juste. Soit vous le faites entrer, soit vous le laissez dehors. Le signe 1er septembre 1963, page 49, p. 5. Appliquez cela. Créez autour de vous cette atmosphère qui va vite exercer de l'emprise sur eux. Voyez-vous? Oh! Vous êtes vouette. Si vous avez le signe, vous créez un esprit autour de vous. Une puissance qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? Sister ça. 375 Appliquez le signe. Ensuite marchez avec cela. Réclamez votre famille. Vous devez le faire maintenant. Sester le temps du soir. Eh bien, il y a longtemps que vous écoutez. Sester maintenant le temps du soir. Esther ce que votre vie Esther est digne de l'évangile p. 151. Et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie? Vous n'y savez pas pourquoi? C'est Esther juste le genre des personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils qu'ils. Vous aimez être en leur compagnie. C'est Esther. Il crée cette atmosphère par la vie qu'ils mènent, par la façon dont ils parlent, par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d'autres que vous vous évitez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal acquis. Parler de quelqu'un. Vous dites, oh, là là, le voilà venir. Il va critiquer quelqu'un. Il est Esther. Le voilà donc. Il va parler de tel homme. Il n'y fera que raconter des plaisanteries grossières. Quelque chose au sujet de femme ou quelque chose comme ça. Vous détesterez vraiment être en leur compagnie. Voyez? Il crée. Allez voir. Ce sont de très braves gens. Mais ils créent cette atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous pensez. Les choses que vous faites. Vos actions. Les choses dont vous parlez créent une atmosphère. Allez. Réveillez Jésus 17 janvier 1963. Et nous créons notre atmosphère autour de nous. Chacun de nous. Vous avez été avec des gens qui étaient des gens bien. Mais Sester à peine si vous pouvez rester en leur compagnie. D'autre part, vous avez été avec d'autres personnes dont vous appréciez la compagnie. Sester vous qui créez cette atmosphère. Et, oh, n'auriez-vous pas aimé être en compagnie de Jésus juste un instant? Sester merveilleux. Voir l'atmosphère qu'il créait. Je m'imagine que c'était un très grand faisceau de rayons d'amour. De respect, de crainte divine. La Grande Commission 1er mars 1958 B.E. 13. Et qu'en est-il d'un frère qui a commis une erreur? Même si je dis qu'il a tort. Quelquefois il est accusé d'être dans l'erreur alors qu'il n'est mis l'Esther pas. Mais s'il est dans l'erreur, eh bien, si nous l'amenons au trône de Dieu, et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il est Esther immortel, et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude envers lui, lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendrons compte que nous sommes tous coupables, et que nous avons tous besoin de l'aide, l'un de l'autre. Et la meilleure façon de s'y prendre, c'est Esther de prier. L'imitation du christianisme 20 janvier 1957 et M. 15, Notre Père Céleste, aujourd'hui, Sester avec des cœurs reconnaissants que nous nous approchons, dans le silence et dans le respect, en ce moment sacré, afin que quand, qu'Esther ce qui nous dit que cette heure P. précise, Néhémie décidera pas de la destination éternelle d'une âme qui se trouve ici, et la valeur de cette âme est estimée à plusieurs milliers de mondes. Ainsi, nous te prions, Père, de nous permettre d'aborder ceci respectueusement, solennellement, et dans une attitude de prière. Il se peut aussi qu'il y ait des malades ici présents dont l'attitude vis-à-vis de la parole aujourd'hui pourrait décider du temps qu'il leur reste sur terre. Alors, nous sommes conscients du sérieux de ce moment précis, et nous demandons que ta glorieuse présence nous joigne tous. Depuis ce moment la 02.03.96.0.24. Toute attitude que vous affichez envers Dieu scelle votre destination éternelle. Vous pouvez traverser la ligne de démarcation entre la grâce, la miséricorde et le jugement, et quand vous rejetez la grâce plusieurs fois, vous pouvez vous séparer à jamais de la présence de Dieu, ou vous pouvez l'accepter et avoir la vie éternelle et n'aimer jamais mourir, mais ressusciter au dernier jour, à la résurrection générale. Oh ! Combien je suis heureux de ce qu'il existe quelque chose auquel nous pouvons nous référer et dire, dès ce moment, quelque chose est arrivé. Le discernement de l'esprit 8 mars 1960, et nous Néhémie sommes rassemblés ici ce matin, ô Père, dans le seul but que savoir, ou plutôt d'étudier pour connaître la volonté de Dieu et ce qu'il nous faut faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération, sachant avec certitude qu'au jour du jugement, nous serons confrontés avec cette génération. Et, en tant que prédicateurs, nous serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons prêché. Les sept âges de l'Église 12 mai 1954. Et puissent tous les laïcs agir ce soir, comme si ceci était le dernier sermon qu'ils vont jamais entendre. Ô Dieu, ôte toutes les folies. Rends-nous sincères, sachant que nous devons un jour répondre au jugement de Dieu. Et notre attitude envers lui et envers sa parole maintenant déterminera notre destinée éternelle. Et Jésus 27 avril 1957 SE 52. Et que celui qui veut vienne boire gratuitement aux fontaines de la vie. Faites votre choix. Votre destinée éternelle dépendra de votre attitude envers Jésus-Christ. Ceci pourrait être votre dernière chance. Et pendant que nous inclinons nos têtes maintenant pour un mot de prière, je demanderai à la sœur de s'approcher du piano. Pendant que chaque personne est en prière, j'aimerais que vous réfléchissiez bien là-dessus. Dieu proche dans son amour 6 août 1957 7. Votre action ou votre attitude envers cette portion de l'Écriture scellera votre destinée éternelle. Et si cette Écriture a de la valeur, c'est assez suffisant pour nous ce soir d'y penser juste pour un moment. Et Jésus 23 décembre 1957 10. Ces petites paroles-ci, composées de ces quatre lettres, qui ont été lues ce soir comme texte, peuvent sceller votre destinée éternelle, votre attitude envers elle. Voilà donc qui les rend si importantes. Ces petites paroles peuvent vous libérer du péché ce soir. Ces petites paroles peuvent vous condamner ce soir. Ces petites paroles peuvent vous libérer de la maladie et de la souffrance ce soir, si vous les recevez. Mais il faut qu'elles soient reçues. Ainsi, que faisons-nous, si nous voulons voir nos bien-aimés de l'autre côté, créer une atmosphère d'amour, projeter l'amour sur eux, qu'ils puissent le sentir et qu'ils vous aiment en retour, qu'ils fassent de bonnes œuvres à votre égard. Ainsi, quand ils viendront devant le grand trône blanc du jugement, les témoignages de tout ce qu'ils auront fait pour vous seront étalés et la vie leur sera accordée. C'est l'acte final de miséricorde de Dieu, au trône blanc du jugement. Prions.